Il est 18h30, bonne fin d'après-midi sur BAC FM. Je vous le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui la journée olympique. Athlétisme, badminton, boxe, mais aussi escrime, natation, la liste des sports olympiques est longue. Et ce n'est pas pour rien que le plus grand événement sportif mondial reste les Jeux Olympiques. Justement, la France est organisatrice des JO 2024 et on reviendra dessus avec mon invité. La place également de l'athlétisme en France et dans la Nièvre, l'évolution du sport et les nouveaux arrivants dans le milieu olympique. Plusieurs sujets au cours de mon entretien avec une voix que vous reconnaîtrez certainement, voix française des JO. Il a été un athlète de haut niveau, notamment en étant capitaine de l'équipe de France de décathlon, prof de sport également et entraîneur. Sa vie est rythmée par le sport et surtout par le rugby, grand défendeur, de l'USON et de l'athlétisme. Bonjour Jean-François Raffali.
Bonjour. Votre lapsus lingué est assez révélateur. Hein. J'ai bien joué au rugby à l'USON et j'essaye bien d'être le meilleur en défense.
Eh ben vous voyez, c'était un lapsus révélateur, effectivement. Mais j'ai volontairement pas précisé autre chose aussi dans votre présentation, c'est que vous êtes également l'organisateur du Perche Elite Tour. Comment ça se déroule, cette compétition ?
Bah déjà, il faut dire que cette compétition est née un jour de folie, hein, parmi tant d'autres. C'était en début 1994 à Cercy-la-Tour, où nous devions financer un sautoir, le premier sautoir, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas de matelas de réception pour mes jeunes perchistes qui sautaient sur des matelas de fortune. Et nous avions financé ce sautoir en invitant des amis sur l'idée d'un certain Philippe Collet, qui nous donne ses enfants en ce moment en équipe de France, qui avait dit, écoute, je viens avec des copains de l'équipe de France, on fait un show, tu gagnes un petit peu de sous et tu m'achètes un sautoir. Eh bien, j'avais dit banco. Et effectivement, eh bien, depuis 1994, Top Perche n'a cessé d'exister. Ensuite, il s'est extradé sur Nevers. Mais entre-temps, avec des amis, ben, nous avons monté ce circuit en réseau, puisque beaucoup étaient curieux. Ils disaient, mais comment on peut faire du saut à la perche international dans un endroit comme Cercy-la-Tour? Eh bien, oui, c'est possible en hiver. C'est mon leitmotiv depuis toujours, et c'est possible aussi ailleurs. Donc pour ça, je vais vous expliquer comment ça se fait, comment on fait un cahier des charges, et de là est né en 99 le circuit Perche Elite Tour que j'ai concédé il y a de cela 3 ans, d'année en année, à la Fédération Française d'Athlétisme, et puis maintenant avec les moyens de la Fédération et les moyens propres que j'avais créés à une époque, ben nous développons un circuit itinérant en musique et qui concerne les petits, les grands, les moyens et les athlètes de haut niveau.
Un projet qui est né à Cercy-la-Tour, où vous avez été également prof de sport, si je ne me trompe pas.
Eh oui, vous ne me trompez pas, vous êtes bien renseigné. Ben, ceci dit, c'était assez facile de faire le tour des établissements scolaires que j'ai pu faire dans ma carrière, puisque je n'en ai fait qu'un. J'ai été nommé à Cercy-la-Tour et 40 ans après, j'ai rendu mon tablier. Comme diraient mes collègues qui, eux, cherchent des mutations grâce à des points accumulés, j'aurais carrément pu faire un téléthon de points pour offrir à mes collègues, puisque moi, je n'ai jamais utilisé ce cumul de points, puisque j'ai été nommé là où j'ai pris ma retraite.
Transmettre aussi le sport, cet esprit sportif, c'est quelque chose qui vous a plu par rapport à toutes les autres choses que vous avez pu faire ?
Ben, j'ai presque envie de dire que vous avez cerné un peu l'objet de ma vie, hein. Alors, pas que le sport, mais transmettre les valeurs du sport, effectivement, à travers ça, ben, il y a le transfert de certaines règles sociales, de vie en communauté, de vie commune, de vivre ensemble, des transmissions d'expériences, des transmissions d'émotions. Ben, j'ai presque envie de dire que ça doit faire partie inhérente du métier d'enseignant d'éducation physique. Alors, vous me direz, c'est vrai qu'aujourd'hui, les formations universitaires parlent pas vraiment comme ça. On forme plutôt des docteurs qui n'ont pas jamais vu un enfant. Ça, c'est un peu compliqué après pour eux, d'ailleurs, quand ils sont sur le terrain. Mais je pense qu'avant tout, au-delà de la discipline, de la matière, peu importe la boisson pourvu qu'il y ait l'ivresse, hein. C'est un peu ça. Transmettre, le sport est un alibi, est un magnifique alibi, et ça permet à des privilégiés que sont les enseignants d'éducation physique, les entraîneurs, tous ceux qui transmettent les valeurs sportives, c'est un grand privilège de pouvoir éduquer notre jeunesse, qui est une très belle jeunesse et qui a besoin d'une transmission de valeurs.
Et justement, ça rejoint une de mes questions que je voulais vous poser plus tard, mais qui vient très bien à ce moment-là. Je voulais vous demander quelles étaient les valeurs de l'athlétisme, justement. C'est ce que vous venez nous décrire, finalement, en fait.
Oui, les valeurs de l'athlétisme, c'est ça, c'est déjà se dépasser. Moi, j'ai toujours dit, même en tant qu'enseignant, j'ai eu des enfants qui étaient en proie à quelques difficultés motrices, hein, quelques enfants qui souffraient de légers handicaps. Eh bien, je disais, de ces élèves-là à mes petits champions, tout le monde peut battre un record du monde, à commencer par son propre record du monde à soi. C'est une manière d'un pamphlet un petit peu provoque, Mais c'est vrai que je pense qu'on est là pour donner le meilleur de soi-même. J'aime pas l'à peu près. Je pourrais pas être, je pense que vous ne m'auriez pas interviewé si ma vie avait été jalonnée d'à peu près. J'aime pas les gens qui vont pas au bout des choses. Je n'aime pas moi-même ne pas aller au bout des choses. Et je pense qu'on a tous un potentiel absolument sous-estimé, parfois sous-estimé par nous-mêmes, hein, un potentiel physique, un potentiel affectif, un potentiel sportif, que l'on doit amener à terme pour ne pas être frustré quand on arrive dans mes âges, quand on arrive retraité. Et c'est vrai que c'est transmission pour dire à un enfant, tu peux battre ton propre record du monde à toi et tu peux t'accomplir ainsi. Bah, c'est ce qui a, oui, guidé un peu ma vie et ma vie professionnelle et extra-professionnelle.
Et la première force physique, elle vient aussi de la première force mentale ?
Absolument. Et je pense que, ben d'abord, comment on sait que les enfants déjà nous montrent leur caractère avant de se mouvoir sur deux jambes, hein. Et c'est vrai que on peut jouer. Alors, à un moment donné, est-ce que le physique l'emporte sur le mental et le mental aide au physique ou est-ce que c'est le physique qui aide au mental? À un moment donné, c'est une alchimie où, peu importe, c'est des leviers. On peut accéder, être efficace en actionnant certains leviers plus affectifs, plus psychologiques, plus moraux. Et puis des fois, bah, il faut oublier de réfléchir. Hein, il faut poser le cerveau de temps en temps et puis aussi laisser parler son corps. Le langage du corps, c'est important. Quand j'avais créé le spectacle Le son avec les lumières en 1997, un enfant me posait la question, mais qu'est-ce que c'est que le cri du corps? J'avais dit, le cri du corps, c'est une expression physique qu'on ne doit pas retenir, qu'on doit peut-être guider, bien sûr, qu'on doit apprivoiser, mais qu'il faut surtout pas retenir et surtout qu'il ne faut pas nier. Nous sommes des petits animaux. Il paraît qu'on est doué de l'intelligence. Ça, c'est une autre affaire, mais n'oublions pas notre côté animal et physique.
Et c'est ce qui fait la force des plus grands.
Sans doute.
Qui sont passés d'ailleurs au Perche Elite Tour.
Alors, on a eu cette chance, et même à Cercy-la-Tour, quand je dis à mes enfants que Rodion Gataouline, alors ils sont obligés de chercher sur Wikipédia, hein, parce que Rodion Gataouline, quoi? Il a fait 6m05 à cette époque-là? Eh oui, les enfants. Et chez nous, il a le record du même Renaud Lavilloni, même Jean Galtion, se sont cassés les dents sur l'élan réduit de Cercy-la-Tour, et c'est Rodion Gataouline qui a le record. On a eu Rodion, puis on a eu Renaud, qui a fait 6m01 dans la maison des sports de Nevers, on a eu Fabien Amoureur, on a eu des plus grands et les plus grandes. Et on a eu aussi beaucoup, beaucoup de jeunes talents. Les gens ne les avaient pas trop remarqués, puisque le Perche Elite Tour, ça va de l'initiation aux plus grands sauteurs talentueux. Et il y a beaucoup de grands noms qui sont passés, mais à l'époque, ils étaient des cadets, ils étaient des juniors. Et je me souviens, lors des championnats du monde d'Helsinki, lorsque l'Adji de Kouré a gagné, a été sacré champion du monde sur 110 mètres haies, certains me disaient que ce serait bien s'il pouvait sauter à la perche et venir à Cercy-la-Tour. Et je leur ai dit, ben, vous avez raison, vous avez absolument raison, puisqu'il y a 4 ans, il est venu, il a battu son record à la perche, puisqu'il avait battu le record de France de décathlon, et il a battu son record à la perche dans le gymnase de Cercy-la-Tour. Et après, il est allé vers la chaudière manger des pommes de terre que nous faisions dans le feu. Voilà.
Il a connu les spécialités aussi de notre région.
Absolument, et il s'en souvient encore.
Justement, les espoirs, on reviendra dessus tout à l'heure à l'occasion des Jeux Olympiques, car c'est l'événement aussi pour célébrer toutes sortes de disciplines olympiques. Une initiation à de nombreuses pratiques, notamment, et puis des spectacles, des ateliers en présence de nombreux athlètes français seront devant le Stade de France à l'occasion de cette journée olympique. Aujourd'hui, est-ce que c'est un avant-goût aussi des Jeux Olympiques et puis cette bonne augure aussi pour 2024?
Alors, je suis résolument positif en général quand je parle d'avenir, de jeunesse, de sport. Donc je vais dire, je l'espère.
Mais il y a une sorte de réticence quand même quand vous en parlez.
Ben, disons tout simplement, dimanche, je suis passé devant les installations. Hein, j'étais à Franconville, nous avons fait le grand tour, la grande boucle nord de Paris, et nous avons vu les chantiers, j'ai vu l'état des routes. Je suis très impliqué dans la fédération d'athlétisme, et je sais où en est le chantier sportif et organisationnel de ces Jeux qui sont dans 23 mois. Hein, dans
et 23 oui, on mois, est, ça on arrive est à là. Moins de 2 ans hein, déjà.
Ça arrive à la vitesse grand V. Alors j'espère, mais les Français ont peut-être cette capacité aussi d'être capable d'accélérer dans la dernière ligne droite, à l'image de Florian Gay dans son relais du 4x400 mètres des championnats d'Europe, ou Christine Aron. J'espère qu'on fera pareil, parce que, faut être très honnête, nous ne sommes pas en avance à l'heure actuelle. Alors j'espère qu'une journée comme aujourd'hui va sensibiliser les gens. J'ai le retour des enfants à l'école, des fois quand je leur dis « Alors, les Jeux Olympiques 2024 ?» Bien souvent, ils me regardent avec un air très interrogatif. Et la grande fête de la jeunesse, qui devait passer par un seul et même ministère de l'éducation nationale et des sports, c'est la première fois récemment qu'on a connu ce doublement, enfin au contraire, cette compression de deux ministères en un seul, à savoir l'éducation nationale et jeunesse et sport, et on pouvait se dire que ça allait permettre une proximité et faire en sorte que nos scolaires, tous nos enfants, ont ceci de particulier, c'est que leur premier métier c'est d'aller à l'école, et on espérait que sur le lieu de travail, on leur explique ce qu'est l'engouement olympique, au-delà de quelques dessins faits dans des classes de CM2, leur faire vivre vraiment des émotions. Et jusqu'à présent, il faut être très honnête, rien n'est fait. Donc je suis un petit peu interloqué. Je sais aussi qu'il y avait aussi beaucoup de villes et villages qui s'appelaient Terre de Jeux, où aujourd'hui, on a eu le label et quid du label.
Il y a un engouement qui n'est pas encore vraiment très prononcé. Et pourtant, si je vous pose la question, qu'est-ce que ça représente pour la France, l'organisation d'une telle compétition? Qu'est-ce que vous allez me répondre?
Moi, je dis que ça va être une plus grande émotion intergénérationnelle à partager et surtout, on en parle beaucoup, et qu'elle soit durable. C'est-à-dire que beaucoup, la société de communication qui a permis à Londres d'emporter les Jeux en 2012 et à Paris, puisqu'on a pris la même société de communication à Paris 2024, parlait beaucoup de ce mot « legacy » en anglais, qui veut dire « héritage ».
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est bien beau de parler d'un héritage, mais pour avoir un héritage, il faut qu'il y ait un patrimoine constitué. Ou alors, c'est un héritage de dette. Donc, c'est jamais bien bon comme type d'héritage. Donc, aujourd'hui, ce patrimoine, c'est maintenant qu'il faut le constituer. C'était peut-être même avant. Et redonner aux Français le goût du sport. Alors, c'est vrai. C'est vrai, à la décharge des responsables, que ce soit Tony Estanguet et son orchestre, j'ai envie de dire, c'est vrai que le Covid est passé par là. Ça n'a pas aider à la pratique, à l'échange. On était confinés, on était loin les uns des autres, on a quitté nos clubs. Les jeunes peinent à revenir au club, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Et c'est vrai que, à part quelques footings faits dans les horaires permis, la pratique du sport a été mise en sommeil en pratiquement un an et demi.
Le Covid a été un fléau, alors là c'est une petite parenthèse dans la conversation actuelle, mais est-ce que le Covid a été un fléau pour toutes les associations sportives d'athlétisme dans la Nièvre et même en France en particulier?
Alors, ça l'a été dans certaines catégories. Si je prends le simple exemple de Cercy Latour, on a tout de suite réagi. Tout de suite, un peu comme les industriels qui disent toujours que c'est en période de crise que l'on construit la réussite dès demain. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a vu disparaître un certain nombre de licenciés adultes et on a vu arriver un certain nombre de licenciés compétiteurs et jeunes. Donc ça, c'est pas pour me déplaire, vous imaginez, on a vraiment augmenté notre nombre de licenciés et surtout de licenciés compétiteurs. Mais c'est vrai qu'on a pris la balle au rebond des aides d'État, bien évidemment, on a monté des dossiers dans ce sens-là. Nos demandes ont été honorées. C'était pas simple de monter ces dossiers-là, mais c'est vrai que on a fait un forcing. Il m'est arrivé de me déplacer tous les jours, une fois pour deux athlètes, une fois pour un athlète, mais tous les jours on était là, tous les jours. Ça nécessitait beaucoup de voyages, beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, des fois des voyages pour rien. Mais au bout du compte, quand on a libéré la possibilité de se retrouver, eh bien on s'est retrouvé avec, je vous donne un seul exemple, moi je n'ai jamais trop eu de juniors dans mon club, les juniors vous savez ce sont ces étudiants qui partent, qui quittent la Nièvre, eh bien cette année j'ai 5 perchistes juniors, qui est absolument un record, et je ne me plains pas, comme mes collègues, de cette désertification de la Nièvre, bien au contraire, mes juniors, ils travaillent chez nous, et parce qu'on les a peut-être un petit peu plus sollicités, tarabustés pour venir à l'entraînement.
Et accompagnés aussi, oui.
Et accompagnés. Bon, faut savoir que dans la période de Covid, nous, quand on a appris qu'il y a à avoir le confinement, on a pris un tracteur, un plateau, pour les agriculteurs qui nous écoutent, ils savent de quoi on parle. On a mis le sautoir, les installations, la piste, les rouleaux synthétiques, les perches sur le plateau. Et ensuite, on avait rendez-vous dans une ferme.
À la bonne franquette.
Dans une stabulation, et on s'entraînait là. Mais il y avait des gars de Clermont-Ferrand qui étaient descendus, des gars 5,40 qui étaient descendus pour s'entraîner.
Pour revenir justement sur notre région, sur la Nièvre, vous en parlez très bien. Est-ce qu'on peut dire, Jean-François Raffali, je suis sûr que vous n'allez pas me dire le contraire, que la Nièvre est une terre d'athlétisme?
Alors la Nièvre est une terre d'athlétisme. Elle l'a été plus. Elle l'a été. À une époque, c'était absolument impressionnant. Les déplacements au championnat de France des jeunes. Alors, les jeunes, c'est de 16 à 20 ans, hein, quand même, les forces vives. On partait en minibus du côté de Vauzelles. On partait en minibus du côté de la SFUSN. Et on parlait du côté de Saint-Égier-des-Vignes. On partait en minibus et à Cercy, pareil. Aujourd'hui, sur ce type de qualification de compétiteurs, malheureusement, vous
n'en avez... Elle se repose sur ses lauriers?
Plus beaucoup. Reposer ses lauriers, je pense pas, parce que les dirigeants qui sont encore sur le pré ne se reposent pas. Je vous jure qu'ils font un travail absolument impressionnant. Mais par contre, peut-être qu'il y a eu un transfert des forces athlétiques vers la course en durée. Aujourd'hui, il ne se passe pas un week-end sans une course en durée, quelle qu'elle soit. On peut même y assimiler le triathlon, les trails, les courses sur route, la ronde des fleurs, la ronde des feuilles, la ronde de l'herbe verte et de l'herbe séchée. Enfin, bon, vous avez compris que je suis un petit peu moqueur dans cette affaire-là. Mais aujourd'hui, tout le monde peut organiser. Avant, il fallait être sous l'égide de l'athlétisme et de la fédération pour organiser. Aujourd'hui, n'importe quel comité des fêtes fait sa course. Il y a même des courses gourmandes, c'est-à-dire où on court et on mange et on boit. Il y a des randonnées aussi, où on marche et où on déguste les bons produits. Alors, d'un point de vue social, c'est absolument fabuleux que des vétérans, hein, qu'on appelle des masters maintenant, puissent courir et faire du sport santé après 40 ans. Je trouve ça absolument génial et c'est un vecteur de santé pour notre pays. C'est très bien. Et pour la Nièvre, en revanche, ça n'apporte absolument rien
à l'avenir.
Ah non, ça n'apporte rien. Je dirais même que certains, pas tous, attention, il y a des gens qui courent et qui n'oublient pas de redonner aux autres. On revient sur l'héritage, hein, la boucle est bouclée. Mais vous savez, aujourd'hui, la majorité des gens masters qui courent pour leur bien-être et leur santé, et c'est très bien, je leur redis, mais oublient que s'ils ont eu un plaisir athlétique, ce serait bien de temps en temps qu'ils le redonnent dans un club, mais sur une piste, pour apprendre à faire courir un enfant et à bien courir, et ne pas voir certaines courses écrasées, comme je les vois sur les routes, parfois. Je ne veux pas parler d'un égoïsme, mais on n'est pas loin.
Votre regard de spécialiste, il est partout, en fait. Même quand vous êtes en voiture et que vous voyez des gens courir le long des routes, en fait. Ah ben, vous ne lâchez jamais.
Ah non, jamais. Ah ben non, c'est un défaut chez moi. Quand j'écoute une émission de sport, je regarde l'attitude de l'athlète, puis j'écoute aussi l'attitude du speaker et du consultant, parce que c'est aussi mon métier. Donc, mais cette vigilance me procure du plaisir aussi, attention, hein. Mais c'est vrai, entre parenthèses, la première remarque que je fais quand je vois quelqu'un qui court, là, je trouve ça bien. Je vois Antoine de Wilde, quand il a lancé la bottine, en même temps, il a donné des cours, hein, le samedi matin, et on voit des gens par groupe entier. Je sais qu'à l'ASF, avec Jean-Pascal Muller, il y a des groupes qui font du trail, qui font de la course en durée, il y a beaucoup d'adultes et de masters. Ça, c'est très, très bien d'un point de vue santé. D'un point de vue sportif et pour la jeunesse, ça n'apporte absolument rien. Je dis même que comme nous sommes peu de dirigeants, on ne peut pas être partout à la fois, quelque part, le temps, il faut bien le prendre là où il est. Et c'est, je le crains, au détriment d'une jeunesse qui a besoin d'une éducation athlétique. Et l'éducation athlétique, c'est exigeant, hein. C'est la base de tous les sports. Hein.
Justement, on va revenir aussi sur ce que vous avez dit, que vous étiez aussi speaker, que vous étiez commentateur, que c'était aussi votre métier, mais plus votre plaisir, votre passion. Est-ce qu'on va vous entendre pour les JO 2024?
Je ne sais pas. Si vous avez des nouvelles, vous me le dites. je n'ai jamais été, alors c'est un peu facile de dire ça, mais je n'ai jamais été demandeur. Jamais de ma vie, j'ai été demandeur. Bien évidemment, quand on me posait la question si je voulais aller aux Jeux Olympiques, je réfléchissais pendant un centième de seconde et je disais oui, bien évidemment. Hein, qui refuserait? C'est un grand honneur, c'est un grand plaisir depuis 1996. Mais je n'ai jamais été demandeur. Donc, je pense que je ne suis pas loin d'atteindre la limite d'âge. Il faut quand même reconnaître ce qui est, hein, et ce n'est pas grave. Il y a des jeunes qui arrivent, et c'est très bien. Maintenant, si on me demandait d'être la voix française, il n'y a pas eu de voix française, hein, vous savez, pour Tokyo, bah, c'était à huis clos. Et puis, il faut savoir aussi que les Jeux Olympiques délèguent aux fédérations concernées un certain nombre de tâches, dont celle d'annonceur. Et que nous n'avons plus Lamine Diack à la tête de la Fédération Internationale, mais nous avons Sébastien Coe, qui est très anglais et anglophone et angliciste. Donc ça veut dire que le français a du mal à s'imposer. Alors, j'espère qu'il y aura bien une hégémonie de langue française à Paris, ce serait quand même dommage. Et puis, si d'aventure on me demandait, je crois que, comme à l'habitude, je réfléchirais pendant un dixième de seconde et je dirais oui. Mais pour l'instant, les rôles ne sont pas distribués.
Et pour, on l'espère, commenter les performances de certains Nivernais, vous pensez à des noms ou pas?
Ah oui, j'en ai un petit là que j'ai entraîné à une époque là, qui va très très bien à l'heure actuelle, qui s'appelle Jules Pommery.
Ah, Jules Pommery, j'y pensais. J'attendais que vous le disiez, vous parliez de lui justement.
Si je vous avais renvoyé la question et que vous n'auriez pas répondu Jules, j'aurais dit qu'il fallait voir vos fiches quand même.
qui a battu le record de France Espoir il y a très peu de temps en Grèce. il faut le dire.
C'est énorme, 8-17, c'est énorme. Alors, je pense qu'il a un potentiel qui peut l'emmener bien au-delà. Puisque moi, j'ai eu la chance d'avoir d'entraîner un garçon qui détenait le record de la Nièvre avant lui, hein, qui après a fait 8 mètres 11 en altitude au saut en longueur, Franck Monnel. Franck Monnel était sans doute l'un des plus doués que je n'ai jamais eu. En particulier en longueur, c'était quelqu'un qui n'était pas sérieux, qui a fait 8 mètres 11 par défaut, et je disais qu'il valait 8,40. Et il faisait certains exercices sur des élans réduits. Eh bien, Jules a fait exactement les mêmes performances. Ça veut donc dire que, alors après, moi, je n'ai plus suivi son entraînement, il s'entraîne, il est entre bonnes mains, il est dans les mains de Robert Emian, qui est un ami, qui est le détenteur du record d'Europe, et d'après Robert, il pense la même chose que moi, c'est un garçon qui a 8,50 dans les jambes. Et 8,50 dans les jambes, ça peut être une médaille dans un très grand championnat.
Donc maintenant, ça viendra au fur et à mesure jusqu'au JO, donc.
Voilà, je pense que à 2 ans, c'est une échéance parfaite pour Jules. Et même s'il pourra encore prétendre à d'autres choses derrière et à d'autres Jeux Olympiques ou d'autres championnats du monde. Mais 2 ans, avec 8-17, là, il va confirmer. Je pense qu'il va battre son record cette année encore. Imaginons qu'il aille jusqu'à 8m25, 8m30. À 2 ans des Jeux, ce serait, enfin, ce sera moins de 2 ans. Mais à une vingtaine de mois de l'échéance, ce serait parfait pour lui.
Un Denis Vernet, donc, parmi tant d'autres, on l'espère, qui défendront le drapeau tricolore dans les domaines nouveaux, les domaines peu communs aussi, alors que le karaté n'aura connu que les JO de Tokyo, des nouveaux sports aussi arrivent à Paris en 2024, en tant que sport additionnel. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les auditeurs qui nous écoutent la différence entre sport additionnel et sport olympique ?
Alors, les sports additionnels, parfois, peuvent devenir sports olympiques, et le contraire. Les sports olympiques sont, on va dire, une liste de sports qui, traditionnellement, dans le temps, était un chapitre, on va dire, incontournable.
28, hein, à Paris 2024. Il y aura 28 sports olympiques.
Mais on est bien obligé, de temps en temps, de rénover. Donc, on en enlève de cette liste-là. Exemple, la lutte. Et des sports qui, pourtant, sont ancestraux, hein, puisque le pancrace...
Surtout la lutte, oui, exactement.
Ancêtre de la lutte faisait partie puisqu'on terminait toujours par un pancrace, hein. Quand on faisait même de l'athlétisme, on terminait toujours par une lutte. Faut le savoir, hein, dans les Jeux Olympiques anciens. Et puis, en fonction, du temps qui évolue, en fonction aussi des pays, on propose des nouveaux sports ou des nouvelles activités sportives, j'ai envie de dire, ou activités physiques. Et le Comité international olympique statue pour proposer 1, 2, 3 nouveaux sports. Faut savoir, par exemple, on se souviendra qu'à mes premiers Jeux olympiques, j'ai découvert presque sur site qu'on pouvait faire du volleyball autrement que sur un parquet, puisque maintenant c'est devenu un sport olympique, on se pose pas la question, mais à l'époque c'était un sport additionnel, on avait rajouté le beach volley en 1996 à Atlanta, et qui était une nouvelle discipline, mais il faut dire que ça correspondait bien à l'esprit américain, sport de plage, on bronze, on met les maillots de bain qui vont bien, qui sont fluo.
Ça rentrait dans le décor en fait.
Voilà, on se noie dans le décor, et puis admettre, c'est pas mal, c'est aussi une manière de rendre hommage au pays qui accueille, à la population qui accueille ces Jeux Olympiques. Donc cette année, on aura des disciplines nouvelles, en particulier une qui fait encore débat.
Je sais de laquelle vous allez parler.
Voilà, le street dance, breakdance, voilà.
Breakdance, exactement.
Bon, ça fait débat. J'avoue que je me suis posé plusieurs fois la question. Il faut prendre beaucoup de recul quand une discipline comme ça, on pourrait dire, et telle discipline, elle n'existait pas. Et pourquoi on saute avec un bâton sur un sautoir qui s'appelle le sur la perche? Donc, moi, je suis pas nécessairement contre. Je suis pas nécessairement pour. L'idée, c'est quand même que pour les Jeux Olympiques, il me semblait quand même que cela devait montrer une certaine universalité ou au moins une pratique généralisée dans le pays. Je vous avoue qu'au pied du Morvan, on ne voit pas beaucoup de breakdance.
On a une école à Nevers.
Mais absolument. Sinon, qu'on parle un petit peu de politique de la ville, pourquoi pas? Il faut voir si ça permet à des jeunes je pense au sport d'hiver à une époque, il était hors de question qu'on aille se mettre dans un demi-cube de glace pour faire un sport avec une planche. Et aujourd'hui, c'est sans doute l'une des plus belles audiences qu'on a quand on voit le half-pipe à la télévision pendant les Jeux Olympiques. Donc, faut être résolument ouvert sur l'avenir. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut pas aller trop vite. Voilà, il faut donner le temps de réflexion. Et puis surtout, se donner le temps du bilan, parce qu'on peut très bien mettre une discipline nouvelle, innovante, et puis malheureusement ne pas la conserver si d'aventure elle n'apportait pas satisfaction.
Voilà. Le breakdance qui est à côté donc des quatre, enfin c'est quatre nouveaux sports en tout, le breakdance donc, l'escalade sportive, le skateboard pardon et le surf aussi également. Ouais, ouais. Et il y avait la pétanque aussi à un moment donné, c'était pour parler hein.
Oui, oui, ben c'est pareil. Moi, c'est pas moi qui vais parler en mal de la pétanque, puisque l'un de mes meilleurs perchistes a été qualifié au championnat de France. C'était un des quatre qui était qualifié au championnat de France l'année dernière. Il voulait pas faire un grand voyage, hein, c'était à Nevers. Mais il a fait les championnats de France des jeunes à la pétanque. Nous jouons à la pétanque, et c'est vrai qu'il y a une différence. C'est un peu comme le golf. Hein. Nous, on joue tous au golf. Quand on regarde le circuit pro, c'est un autre métier. On est sur une autre planète. C'est pareil, les joueurs de pétanque de haut niveau, c'est sur une autre planète. C'est pas comme nous qui faisons ça au moment de l'apéritif. Si ça correspond à la pétanque, en plus, et se joue dans beaucoup de pays, à partir de beaucoup de pays d'Amérique latine. Mais pourquoi pas? L'important, c'est, je pense, de ne pas oublier ce qui se fait. Parce que c'est aussi la récompense au quotidien, de manière traditionnelle, et il est bon de récompenser aussi le travail qui est fait dans un pays pour tenir la jeunesse, que ce soit dans les villes, alors tant mieux s'il y a le breakdance, mais que ce soit aussi dans les villes moyennes et puis en campagne. N'oublions pas les campagnes.
Écoutez Jean-François Raffali, je propose qu'on fasse une petite pause, qu'on reprenne notre souffle un petit peu, on va aller boire un grand verre d'eau, on va écouter Bruno Mars et puis on va revenir juste après. On parlera un petit peu de Lucerne aussi quand même, parce qu'il ne faut pas oublier.
Ah bien sûr, à tout de suite. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Oh, oh.
FM, je suis de retour avec mon invité Jean-François Raffali, on parle JO, on parle athlétisme, on parle sport en fait, on parle de sa passion même, je pense de sa vie. Jean-François Raffali, comment se prépare un athlète aux Jeux Olympiques? C'est une compétition qui est complètement différente, qui est hors de toutes les autres en fait.
Ah oui, je pense, je vais revenir encore sur ce mot héritage, une chose que je regrette un peu, mais qu'en France on a un peu perdu le fil avec des Marie-Jo Pérec. Même si elle revient un petit peu à Whitehead, on a perdu le fil avec des Stéphane Diagana, on a perdu le fil avec des Jean Galfione, parce que les grands champions que nous avons, ou que nous aurons, auront le niveau physique. Mais d'après, et ça je peux pas témoigner, hein, moi je n'étais que derrière un micro, mais d'après tous ceux qui sont allés aux Olympiques, ils disent bien que c'est une compétition bien singulière, bien particulière, alors que nous avons les championnats du monde qui réunissent les mêmes nombres de pays. Mais les Jeux Olympiques, c'est une émotion, faut s'y préparer, et ça peut devenir aussi un cauchemar, parce que il y a tellement d'attentes pour les athlètes, les entraîneurs, le pays tout entier, derrière un athlète qui semble pouvoir nous amener une médaille ou une place de finaliste.
Et un audimat qui est mondial.
Ah, bien sûr. Mais là, on ne va pas se cacher. Hein, ça va. Donc, c'est l'audimat mondial, absolument. Donc, c'est vrai qu'il paraît, qu'il semblerait que ce soit une pression particulière. Et seuls ceux qui sont déjà passés par là, et qui sont bien passés, je pense à Kidru, par exemple, qui ont bien traversé ces périodes-là, je pense qu'ils ont sans doute des choses à raconter, et sans doute des conseils à donner, des choses à faire, et sans doute des choses à ne pas faire.
On parlait tout à l'heure, on parlait des nouveaux sports et des sports qui partaient. J'ai deux questions. Si vous deviez garder un seul sport dans l'athlétisme, ce serait lequel? Et si vous deviez en rajouter un que vous aimeriez voir, ce serait lequel?
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en ajouter, alors en conserver un, le décathlon.
Oui.
Pourquoi le décathlon? Bah, vous l'avez compris. Hein.
Je le disais en présentation, vous avez été capitaine de l'équipe de France de décathlon. Je le rappelle.
Et puis que le décathlon sollicite les qualités d'un athlète qui sait courir vite si possible, sauter loin et haut.
Ça demande beaucoup d'aptitudes physiques en fait, plusieurs aptitudes physiques.
Et voilà, il faut combiner l'ensemble. Ça s'appelle d'ailleurs des épreuves combinées. Hein. Alors, attention, nous sommes les rois des combinés, mais pas les rois de la combine. Hein. Ça, c'est un autre sport.
Sans mauvais jeu de mots, pour faire du décathlon, il faut être à fond la forme.
Voilà, même si nous l'empruntons, on pourrait leur demander quelques droits, ces gens-là. Mais en tout cas, oui, il faut être à fond la forme. Et puis, on termine par un 1500 mètres. Donc, on va même sur le terrain des gens qui n'ont pas le même gabarit que nous, à savoir le demi-fond. Donc, c'est une épreuve. Et puis, vous savez pourquoi il faudrait conserver le décathlon? C'est pas tant par les disciplines, même si on sait qu'elles brossent quand même tout ce qui est le sportif en général, courir, sauter, lancer. Hein, voilà, si vous faites du football, du rugby, du basket, c'est courir, sauter, lancer, hein, y a pas de souci. Mais il manque plus que la natation. Mais c'est surtout l'esprit. Je sais pas si vous avez vu ces compétitions où tous les garçons et toutes les filles de l'heptathlon défilent ensemble après le 1500 mètres pour les garçons et le 800 mètres pour les filles. Les garçons défilent torse nu en plus pour monter un petit peu leurs pectoraux. Bon, ça c'est un petit côté rigolo. Mais ils sont tous ensemble et ils saluent le public ensemble.
Il y a un vrai état d'esprit, oui.
Voilà, y compris le vainqueur, parce qu'il sait qu'en fonction de 1500 mètres, il a le total tout de suite, et il sait s'il est vainqueur, s'il y a les médailles d'argent ou médailles de bronze, mais également celui qui va terminer. Pourquoi? Parce que dans le décathlon, je dis souvent qu'il n'y a pas d'adversaire. Il y a une adversité qu'on partage avec les concurrents qui sont là pendant 2 jours ensemble. On est fort sur le 100 mètres, on va prendre une fessée au lancer de poids, on va revenir au 100 hauteur et on va se faire doubler sur 400 mètres, etc., etc. C'est un sport qui vous oblige à une très, très grande humilité. Et comme ces gens sont ensemble, comme ils savent qu'un jour, ils ont en face d'eux quelqu'un qu'ils vont battre sur une épreuve et que cette personne va vous battre dans une autre épreuve, eh bien, il y a un immense respect. Et comme je le dis, on est des espèces de compagnons d'infortune pendant 2 jours. On a une adversité, on a tous les mêmes trouille, hein, je vais essayer d'employer ce mot pour qu'on comprenne bien. On a tous les mêmes appréhensions, on a tous les mêmes envies. Et quand tout est terminé, eh bien, on est tous ensemble. Bien sûr qu'on ne va pas dire peu importe le classement, mais cette fraternité, ce partage, je le disais tout à l'heure, je parlais d'héritage, eh bien, ce qu'on fait sentir au public, ce qu'on fait sentir aux autres, eh bien, je crois que ça, il faut le conserver. Il y a sans doute d'autres sports, attention, il ne faut pas non plus être trop exclusif, mais le décathlon, de par son cheminement et de par son défilé de fin, et l'heptathlon, pareil pour les dames, je pense que s'il y a une épreuve à conserver, c'est celle-ci.
Mais c'est vrai que c'est un état d'esprit qui ne se rejoint pas forcément à d'autres sports, hein. Il faut être honnête là-dessus aussi, c'est la vérité.
Même dans notre discipline, balayons devant notre porte, hein, même sur notre discipline, hein, y a des disciplines où les garçons et les filles se rencontrent, ils se disent bonjour poliment, et ils s'en vont après, ça s'arrête là. Et c'est pour ça que Usain Bolt a révolutionné les 100 mètres, où avant tout le monde roulait les mécaniques, et Usain Bolt s'est permis de rassembler tous les gars dans la chambre d'appel, de prier, peut-être de manière œcuménique, je ne sais pas, mais de prier ensemble, de serrer les mains à tout le monde avant. Usain Bolt a été, au-delà de ses performances de 9,58, a été une vraie révolution dans l'attitude des sprinteurs, et tant mieux.
Et le sport que vous aimeriez voir rentrer alors aux Jeux Olympiques, vous n'avez pas d'idée?
Ah.
La liste est déjà bien assez complète pour vous.
C'est une bonne question, parce que c'est une question piège. En général, je suis rarement sans réponse. Mais là, au-delà de ce qui pourrait être des jeux régionaux, je veux dire, mais...
Moi, je pense par exemple à un sport qui, je pense, va bientôt arriver, c'est le paddle.
Ah, alors...
C'est un sport qui commence à prendre de l'importance en France, qui commence à émerger sacrément.
Mais vous vous adressez au speaker qui a commenté la première étape de la Coupe du Monde de paddle. C'était pas vraiment en France, c'était à Monaco.
Ah, vous voyez.
Il y a 3 ans, j'ai été invité par Monaco parce que je présente aussi du tennis. Hein, et on m'a demandé d'aller commenter ce premier où d'ailleurs le français était un franco-argentin, puisque c'est un sport qui est né en Espagne et qui a été exporté en Argentine et dans les pays d'Amérique latine et qui nous est revenu maintenant. Et c'est vrai que ça prend un essor phénoménal. Ça joue à deux en plus, on est tout de suite sur l'aspect collectif. Oui, le padel, pourquoi pas. Oui, bien vu.
On va découper l'extrait et on retiendra que je l'ai dit en avant-première sur BAC FM.
Et vous pourrez demander des droits plus tard si ça se fait réellement.
Avec le dictionnaire du sport, Jean-François Raffali, vous reposez jamais. J'ai l'impression que vous êtes partout.
Ben, je me suis reposé là il y a un an parce que j'ai passé plus de temps dans les centres de rééducation et sur les salles d'opération. J'ai trouvé que c'était un repos pas très agréable.
Ouais. Mais ça donc, vous j'ai a repris suffi pour repartir.
Voilà, donc j'ai dit non, faut plus s'arrêter, c'est pas bien. Il faut pédaler. Non, je m'arrête, je prends du temps pour ma famille, j'ai 5 petits enfants, Alors vous savez, je vous donne une anecdote qui date d'il y a 8 jours. Je suis parti retrouver des amis, l'entraîneur national d'épreuves combinées, on appelle ça des copinades, pendant 2 jours.
C'est des cousinades, mais sans lien familial, en fait.
Voilà, exactement, même si on fait partie d'une grande famille de sportifs. Et puis, on mange bien, on vit bien, on profite de la vie. 2 jours après, je suis parti à Saint-Laurent-de-Provence pour animer de l'athlétisme dans la rue. Du lancer de poids et du saut à la perche. D'ailleurs, là où Margot Chevrier s'est qualifiée pour les championnats du monde en réalisant la deuxième performance française de saut à la perche, 4,70 m. Ensuite, je suis allé chez des amis à Aix-en-Provence, chez celle qui a créé le club de Cercy-la-Tour en 1993. Et j'ai passé 2 jours et puis ensuite, je suis allé animer le meeting de Marseille. Et puis après, je suis revenu et le soir même, le jeudi, j'avais entraînement avec mes 15 athlètes à Cercy-la-Tour. Quelqu'un connaissant mon emploi du temps m'a dit « Ah oui, si j'ai bien compris, tu joins l'utile à l'agréable en faisant tes meetings et tes amis. » J'ai dit « Non, je joins l'agréable à l'agréable. »
À l'agréable.
Voilà, bah, vous savez pourquoi, donc je bouge beaucoup comme ça.
Et depuis tout à l'heure, on va parler d'une chose qui a été peut-être le plus agréable pour vous. Vous parlez beaucoup de beaucoup de références, de beaucoup de chiffres, vous avez tout en tête, mais il y a quelque chose qui est revenu 2 ou 3 fois, c'est les JO d'Atalanta. Et si je vous demande quel est pour vous le plus beau souvenir, je pense que vous avez eu en tant qu'athlète ou en tant que commentateur de Jeux Olympiques, je suis sûr que vous allez me parler des JO d'Atalanta de 96.
D'Atlanta, oui. Atlanta, bah déjà c'est peut-être comme les premières amours, je sais pas, c'était la première fois, mais surtout on a eu une réussite française absolument extraordinaire. Et même si vous êtes speaker en langue française, donc et vous êtes là pour être objectif, tous vos autres collègues speakers se retournent vers vous à chaque fois qu'il y a une médaille, donc c'était agréable. Quand en plus on allait dans un restaurant qui n'était pas le Club France, qui s'appelait Léal, on retrouvait toutes les délégations françaises, on apprenait que Jamel Boas, que Cathy Fleury, enfin que les judokas, que ça gagnait de partout. On était avec les Barjots, bon ben, eux ils ont terminé 4e, mais bon, ça gagnait aussi à ce moment-là. C'est vrai que la réussite des Français a été très très intéressante et un très bon moment. En revanche, d'un point de vue émotionnel, je vais quand même revenir sur les Jeux Olympiques de 2004 d'Athènes. À Athènes, nous avons fait les Jeux Olympiques intramuros et nous avons fait 2 épreuves hors du stade olympique. Enfin, nous avons fait 6 épreuves en dehors du stade olympique. Nous avons fait le marathon et la marche sur le stade de marbre, le vieux stade d'Athènes, et nous avons fait le lancer de poids à Olympie. Eh bien, vous savez, quand vous avez lu l'histoire des Jeux Olympiques, quand vous êtes passionné par l'histoire des Jeux Olympiques, et que le stade d'Olympie est interdit à 1,5 km, que vous avez roulé toute la nuit, que vous n'avez pas dormi, parce qu'à l'Olympie, c'est pas la porte à côté par rapport à Athènes, hein, que vous êtes arrivé à 5h30 du matin, et que vous faites pratiquement 20 minutes de marche dans les oliviers avec le chant des cigales, que vous découvrez ce stade et que vous commentez des colosses, hommes et femmes qui lancent le poids dans le stade d'Olympie, passant par la chambre d'appel, là où les anciens athlètes attendaient avant d'être présentés à la plèbe et allaient prendre leurs ablutions après effort. Et que vous voyez ces colosses qui ont les larmes aux yeux en rentrant dans le stade, et que vous, vous avez le privilège de commenter le lancer de poids et de faire la cérémonie des lauriers pour ces champions dans cet endroit inimaginable, je crois que ce moment-là, je suis pas prêt de l'oublier, et que même s'il y avait d'autres petites choses moins bien sur les Jeux Olympiques de 2004, en plus j'avais quand même des résultats, des Manodou et compagnie, ce moment-là, c'est un moment d'émotion que je garde au fond de moi, que j'ai partagé avec des amis, mais qui, j'ai été transporté dans l'histoire. Voilà, j'ai fait un recul de quelques milliers d'années et je me suis retrouvé dans les Jeux Olympiques premiers. C'est absolument incroyable.
Si on se projette vers le futur et qu'on parle donc des performances nivernaises qu'on espère pouvoir voir au JO, on peut parler aussi d'un autre sport, quand même dans la Nièvre, qui fait sensation, c'est le rugby et l'USON. Vous êtes attaché à l'USON. Un petit mot sur leur saison.
Écoutez, déjà, vous avez raison, la liaison, en fait, je me permets d'un petit quiz, une petite question. Est-ce que vous savez quelle est la dernière équipe qui a été championne olympique de rugby à 15?
Alors là non, mais vous allez me l'apprendre, dites-le-moi.
Oui, alors le clin d'œil est vite fait, hein. Ça se passait en France, c'était en 1924, à Colombes, et c'était les USA qui ont gagné, et qui ont battu en finale la France. Et l'anecdote veut que nous avons perdu avant même de rentrer sur le terrain, puisque nous avons perdu le TOS. Et au TOS, à l'époque, vous savez, quand on jette la pièce pour savoir qui engage et qui prend le terrain, eh bien on choisissait autre chose, on choisissait le temps de jeu. Et les Américains, je ne me souviens plus exactement, mais ont dû choisir de 2 à 3 heures de jeu. Ah oui. Et nous savions qu'à ce type de jeu-là, on tenait pas la distance. Et ce sont les USA qui ont été sacrés champions olympiques. Et ce sont les champions olympiques en titre de rugby à 15. Pas de rugby à 7, ce sont les étudiants, mais de rugby à 15. Et ça se passait à Paris, à Colombes.
Voilà, Jean-François Raffali, historien sportif pour vous, messieurs, dames, sur BAC FM aujourd'hui.
Et pour revenir sur l'USON, alors nous, même si on est un club historique quand même, parce que des fois le Sud-Ouest nous fait croire que on ne connaît rien au rugby et que c'est tout récent chez nous, non. L'USON est un des plus...
C'est des chauvins.
Le plus vieux club, là. Je vais dire une bêtise, mais je pense qu'on doit être dans notre 115e année. On doit pas être très loin, là. Il faudrait que je fasse appel à mes amis du rugby pour la statistique. Et ils ont fait une belle saison. Ça a été une saison accomplie, vraiment accomplie. En plus, les Ptios ont été avec le club amateur à très bon niveau également.
Oui, oui, ils ont suivi l'exemple des grands, c'est vrai.
Faut le préciser. Nos espoirs un petit peu moins, mais ça, ils vont rectifier le tir, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, on a fait une saison avec beaucoup de gifs. Alors c'est quoi ce gros mot? Joueurs issus de la formation française avec 2 F, donc un gif. Et c'est vrai que beaucoup de nos joueurs, je crois qu'on doit être le deuxième club en Pro D2, à avoir fait jouer le plus de gifs. Ça veut dire que non seulement on est d'une terre de rugby attractive,
Une terre formatrice.
Mais on les forme. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, on aura peut-être de plus en plus de joueurs qui auront un accent qui roule les R et qui n'auront pas l'accent du Sud-Ouest, mais au moins, ils seront issus d'une bonne école de formation. Et notre école de formation était aussi, au-delà de la belle saison et des demi-finales atteintes par le club, c'est aussi une des belles satisfactions. Et c'est pas trahir le président ni le staff que de dire que cette... formation va être renforcée d'un point de vue structurel dès maintenant dans les saisons à venir.
Parce que l'USON en top 14, c'est dans combien de temps? 3 ans? 4 ans?
Je crois qu'il ne faut pas fixer de date. Bien sûr qu'il faut avoir ce rêve. Vous savez, quand on est un jeune athlète, il y a un de mes petits, je vais vous l'apprendre, qui vient d'être sélectionné en équipe de France, encore un, le jeune Gabamaté au Solapès, qui va faire les championnats d'Europe cadet, il est 5e européen. Quand vous parlez avec un petit jeune comme ça de 16 ans, vous lui dites, qu'est-ce que tu espères faire plus tard? Mon niveau d'aspiration, c'est faire 5 mètres dans les 2 mois qui viennent. Il va les faire, je vous rassure. Et puis ton rêve, mon rêve, c'est de faire les Jeux Olympiques. Bon, voilà, ça s'appelle le niveau d'expectation. Donc, je pense qu'il faut jamais s'interdire le rêve du top 14, mais il faut rêver, avoir la tête un peu dans les étoiles et les pieds bien collés au sol. On ne pourra jamais tenir en top 14. L'idée, c'est pas de monter, et puis de prendre des fessées chaque dimanche où les spectateurs viendront avec grand plaisir voir le Stade Toulousain passer 50 plus points à la maison à Nevers. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire comme a fait le président Régis Dumange. C'est quand on a décidé, quand il a décidé que nous montions en Pro D2, eh bien, mettre.
C'est pour être sûr d'être un vrai concurrent.
Exactement, mettre les structures en place pour faire que quand on rentre, et bon, on joue le milieu de tableau, voire même nous, on a pratiquement fait la qualification d'entrée. Voilà. Donc, si on va en top 14, quand on sait que la marche est très haute d'un point de vue sportif, d'un point de vue financier, d'un point de vue du staff, regardez, maintenant, ils sont près de 20 entraîneurs, 20 dans le staff d'une équipe première, entre les médecins, les préparateurs physiques pour les blessés, les analystes vidéo, les entraîneurs d'avant-d'arrière, le manager général. C'est absolument incroyable. Il faut prendre le temps de bien construire. Et l'idée de construire sur la formation, sur les infrastructures, c'est ce qu'a dévoilé récemment le président Dumange à ses partenaires. On ne se fixe pas de date. Bon, si on vous dit dans 30 ans, non, c'est pas bien. Mais on n'est pas prêt à prendre une opportunité. Vous voyez, si nous avions gagné à Mont-de-Marsan, et si par je ne sais quel truchement, soit en gagnant la finale, soit en gagnant le match d'accès, nous étions montés en top 14, je pense que c'eût été une bêtise. Alors, ça ne se refuse pas de monter, mais c'eût été une bêtise, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Si on est prêt à monter et à redescendre aussitôt. Donc, ce n'est pas le but du jeu.
Donc, on ne met pas de date butoir, mais on sait que ça arrivera très vite. Mais ce qui va arriver...
Par contre, vous pouvez dire que dès maintenant, dès cette saison, un nouvel élan est donné à la formation, aux idées d'évoluer dans les infrastructures, et c'est à partir de là, et puis d'ici là, ben, on aura des clubs aux alentours, que ce soit Bourges, Saint-Gilles-des-Vignes, Moulins, Sancerre, je ne sais pas, qui vont commencer Montluçon, qui vont commencer à s'étoffer aussi, offrant ainsi des opportunités de partenariat, soit dans un sens, soit dans l'autre, hein, les plus jeunes et bons et doués, ben, ils resteront dans la région plutôt que partir ailleurs, et puis nos anciens qui ont encore quelques matchs dans le réservoir, iront alimenter ces clubs qui seront montés peut-être en Fédéral 1, en Fédéral 2, des clubs qui nous manquent satellites pour que notre terre de rugby soit plus large et plus prolifique.
Et pour pouvoir arriver à son but final dans les années à venir. Ce qui arrive, absolument, en tout cas dans 2 ans, c'est sûr, et ce ne sera pas plus tard, c'est les JO 2024, et c'était l'occasion de vous avoir au téléphone, Jean-François Raffali, pour cette journée olympique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, et merci à vos auditeurs.
Bac FM, nous on se retrouve demain à 13h, tout de suite le retour du son pop-rock. Je vous souhaite une belle soirée, bye.